BFM Business partenaire.
BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze.
Bonjour à tous et excellente année 2021. Vraiment heureux de vous retrouver dans le Check-up Santé pour une année pleine de bonnes nouvelles, dont la première sera les Grands Prix BFM de la Santé le 8 février au studio Gabriel. Alors même s'il faut regarder devant nous, d'aucuns disent que c'est le passé qui construit l'avenir. Et le passé, c'est cette foutue année 2020 dont on se souviendra longtemps. Paradoxalement, elle aura été un booster dans de nombreux domaines de la santé, dont le digital, la pharmacologie. Pour en parler et en faire le bilan et démarrer sur des chapeaux de roue, des personnalités incontournables du monde de la santé qui travaillent à ce que nous vivons mieux et plus longtemps. Philippe Vermeche, président du SML, syndicat des médecins libéraux. Rémi Teston, grand geek devant l'éternel, expert e-santé, patron de Buzz e-santé. Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, les industries du médicament, accompagné de l'incontournable Olivier Robichon, directeur de la revue Prescription Santé. Check-up Santé 2021, ça rime avec vaccin et c'est parti. Philippe Vermeche, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes médecin, vous êtes stomato, vous êtes président du syndicat des médecins libéraux en France qui fête cette année ses 40 ans et vous êtes en direct de Saint-Raphaël, Côte d'Azur. Alors surtout ne me parlez pas du temps qu'il fait à Saint-Raphaël, on ne veut même pas le savoir.
Ben, je vais vous le dire, il fait gris.
Il fait gris, tant mieux, tiens, ça nous rassure. Alors, vous avez passé un bon réveillon du 31, donc il paraît que vous avez participé à une rêve partie. Vous étiez 2000.
Bien sûr, mais je vais en organiser une, 300 personnes au moins.
Génial.
Non, soyons sérieux.
Soyons sérieux, évidemment.
Respectons les gestes barrières.
Alors, votre syndicat donc s'adresse à tous les médecins libéraux?
En effet, tous les médecins libéraux, spécialistes, généralistes, parce que tous sont spécialistes aujourd'hui, mais même un médecin à expertise particulière, et les plateaux techniques lourds qui travaillent en clinique. Donc, nous réunissons l'ensemble de la profession médicale.
D'accord. Il y a combien de médecins libéraux en France?
En tout, actuellement, il y a environ 117 000 médecins libéraux. Voilà, pour 230 000 médecins, toutes origines confondues, c'est-à-dire hôpital plus libéral.
D'accord. On peut savoir ce que représente le coût de la médecine libérale par rapport à la médecine hospitalière?
Ce qu'il faut savoir, c'est le coût général déjà de la médecine et du budget de la santé, c'est 210 milliards. Pour 2019, puisque 2020, on ne sait pas exactement
bien
encore.
Sûr.
L'hôpital représente 98 milliards sur ces 210, et la médecine de ville n'en représente que 40 milliards, soit 20% du budget annuel de la santé.
Alors qu'elle voit plus de monde ou pas?
Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde les passages, l'hôpital ne voit que 12 millions, si je puis m'exprimer ainsi, de personnes à l'année, alors que la médecine de ville en voit 45 millions. Donc ça veut dire qu'avec 20% du budget de l'État, la médecine de ville voit quasiment trois fois plus de patients à l'année.
Donc quand on
regarde les sommes qui sont déversées sur l'hôpital cette année, notamment en 2020, il est vrai que les libéraux sont un petit peu amers parce que ils ont besoin d'argent pour s'organiser, pour pouvoir mieux soigner leurs patients et se consacrer à eux. Et donc aujourd'hui, l'État ne les sert que très mal.
On va y revenir. Alors, pour la énième fois, pénurie de médecins ou pas envie de s'installer du fait de lourdeur administrative, contrôle plus fréquent, honoraires indécents?
Alors, il est vrai que la courbe de la démographie médicale va continuer à descendre pendant encore 3-4 ans. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est que le paradigme des nouveaux médecins qui s'installent a changé. Ils privilégient légèrement quand même leur vie de famille, comme tout le monde. L'époque des 35 heures est passée par là aussi, et ils ne sont plus disposés à travailler 60-70 heures par semaine.
Et ils ont peut-être moins envie de s'installer?
Le temps médical déjà est réduit, et donc s'ils veulent gagner correctement leur vie avec le prix de la consultation à 25 euros, il faudrait qu'ils travaillent 60 heures. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes ont une tendance à ne plus s'installer en ville. Ouais.
Alors vous défendez évidemment les médecins. Comment se fait-il que le généraliste français soit le médecin le plus mal payé d'Europe? 25 à 28 euros la consultation?
Ça remonte à des années, puisque l'État a toujours essayé de serrer les dépenses. Et la façon la plus facile, c'est de ne pas augmenter les médecins. Et donc, à partir de là, nous avons des tarifs. On en discutait avec des consoeurs ce matin, on a les mêmes tarifs depuis 20 ans sur certains actes. Donc, la médecine libérale aujourd'hui n'est plus attractive comme elle l'était il y a 20 ans. Et ceci explique qu'aujourd'hui, de nombreux médecins ne veulent plus s'installer dans le libéral. Au détriment des patients, puisque aujourd'hui on voit bien que pour trouver un médecin traitant c'est difficile, que pour avoir un rendez-vous rapidement c'est difficile, et cela ça va encore s'aggraver.
Alors on se rappellera de l'année 2020 comme l'année Covid, où les médecins ont payé un lourd tribut. Est-ce qu'ils ont été récompensés?
Je rappelle qu'il y en a eu, alors on va pas faire un compte morbide, mais quand même 52 médecins sont décédés du Covid, puisqu'ils étaient au premier front, d'une part, surtout sur la première période, puisqu'ils n'avaient même pas de masque et qu'ils n'étaient pas suffisamment protégés. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, la période Covid a changé les mentalités et la façon de travailler, mais au détriment quand même des patients, puisqu'il nous faut quand même plus de temps pour les voir.
Alors, il y a eu le Ségur de la santé. Est-ce que vous dites deux poids, deux mesures entre le libéral et l'hospitalier?
Au vu du service rendu par la médecine libérale, donc qui était au front du Covid, qui était au front et qui venait en soutien de leurs patients, on a vu quand même, et l'hôpital aussi, donc en termes de communication, nous n'avons vu quasiment que l'hôpital, parce qu'il est bien plus facile de mettre des caméras dans les réanimations, mais les médecins de ville en ont vu beaucoup. Et en sortie, donc nous avons fait des Ségur de la santé, on nous annonçait de la santé, mais c'était en fait un Ségur de l'hôpital, puisqu'on voit qu'il y a 19 milliards d'euros qui sont déversés sur l'hôpital, dont 8 milliards rien qu'en salaire. Nos salariés qui étaient au front n'ont absolument pas bénéficié de quelques primes comme au niveau de l'hôpital, comme au niveau des établissements de soins privés. Et donc aujourd'hui, les médecins libéraux et leur personnel l'ont très amer.
Donc j'espère que vous allez continuer à vous battre avec les autres syndicats.
On va continuer à promouvoir la médecine libérale, sachant que on ne peut pas réformer l'hôpital. Ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que l'hôpital ne sera jamais en capacité d'absorber l'intégralité du besoin de la santé française. Et donc, à partir de là, on ne peut pas réformer l'hôpital que si l'on investit fortement sur la ville, puisque c'est une organisation en amont et en aval de l'hôpital qui permettra à celui-ci de retrouver sa place de troisième recours, c'est-à-dire pour soigner les pathologies lourdes. Les gens qui partent aux urgences parce qu'ils ne trouvent pas de médecin, parce que pour un petit bobo, il faut qu'ils sachent qu'ils coûtent entre 200 et 250 euros à la société. Alors qu'en allant voir un médecin libéral, aujourd'hui, il ne coûte que 25 euros.
Merci Philippe Vermeiche. On est évidemment tous d'accord et derrière vous. Bonne année encore.
Bonne année à vous. Et puis, protégez-vous. Et j'espère que 2020, on tournera très rapidement la page de 2020 pour avoir une année 2021 qui sera bien meilleure. Et en attendant que les vaccins puissent se répartir et que tout le monde puisse être vacciné de façon à arrêter cette pandémie.
Merci Philippe. On va à présent accueillir Rémi Teston de Buzzy Santé, empereur de la e-santé en France.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Rémi Teston, bonjour.
Bonjour Fabien.
Alors, je ne sais pas si vous êtes l'empereur de la e-santé, mais en tout cas, vous êtes une des stars de la e-santé en France. Vous veillez, vous informez, vous conseillez, vous dirigez le think tank Club Digital Santé, et cerise sur le McDo, comme disait Coluche, Buzzy Santé a fêté ses 10 ans en 2020.
Exactement, 10 années de veille, de partage, et puis d'essayer de diffuser un peu toute cette effervescence.
Et vous le faites bien. Alors finalement, 2020, année de tous les dangers, est-ce que finalement ça a été une excellente opportunité pour la e-santé, un accélérateur?
Effectivement, c'est la crise qu'on a traversée, a été un véritable accélérateur. Ça a permis de déjà mettre en lumière un certain nombre d'acteurs qui étaient un peu en retard dans cette transformation numérique. Mmh. Et puis, il y a eu une effervescence avec énormément de projets qui ont pu se monter très rapidement, dans des temps records. Et ça a permis aussi de décloisonner un peu les acteurs avec des projets qui étaient vraiment très intéressants, avec à la fois des acteurs publics, privés, des startups qui ont réussi sous forme de coalition, à créer un certain nombre de projets pour accompagner aussi bien les patients que les soignants.
Alors, on va essayer un petit peu de détailler. En premier, la télémédecine, qui a peut-être enfin acquis ses lettres de noblesse.
Alors, c'est sûr qu'il y a eu une accélération du déploiement, notamment de la téléconsultation, puisqu'il y a eu un certain nombre de dérogations. Le cadre réglementaire a été ouvert pour permettre, du coup, à un certain nombre de médecins de pratiquer la téléconsultation pendant cette crise.
Avec prise en charge, vous voulez dire ?
Voilà, ouais. Avec la prise en charge.
Qui est provisoire ou qui risque d'être pérenne ?
Alors, il y a des négociations en cours. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une volonté, notamment des acteurs de la télémédecine à travers leur organisme qui s'appelle le LET, d'essayer de faire en sorte que le cadre sorte un petit peu. Mais en tout cas, il y a une vraie croissance des usages, parce que même quand on a fini la première vague en fait de la Covid, on a vu quand même des usages qui ont perduré. Donc c'est qu'il y a une vraie utilité aujourd'hui à utiliser la téléconsultation.
Notamment. Elle a été vraiment adoptée par les médecins, par les patients ?
Alors pour une grande partie des médecins et des patients, et c'est vrai qu'on a vu notamment l'Agence du numérique en santé a publié une étude sur un peu la perception des Français et des médecins, où il y a des taux de satisfaction qui sont au-delà des 75%, donc qui montrent qu'il y a un véritable intérêt pour cette pratique.
Alors l'intelligence artificielle, évidemment elle n'est pas présente depuis 2020, mais quand même, elle a subi une envolée, et peut-être qu'elle a même servi peut-être à l'accélération de la réalisation du vaccin, peut-être ?
Alors, notamment, oui, dans toutes les phases de recherche sur des traitements, sur les vaccins, l'intelligence artificielle, via ce qu'on appelle le machine learning, qui est vraiment des méthodes d'analyse très profondes qui permet d'analyser des grands volumes de données dans des temps très réduits, a été très utilisée par tous les instituts de recherche, soit publics, privés. Et on a vu aussi une utilisation, par exemple, à l'hôpital pour le triage à l'entrée de l'hôpital, pour ce genre de pratiques. Et puis, ce qu'on va percevoir aussi dans les prochains mois, ce qu'on a vu émerger, c'est l'utilisation dans les pharmacies aussi de l'intelligence artificielle.
Et peut-être que cette intelligence artificielle va servir aussi dans des applications pour suivre aussi en temps réel les patients ?
Exactement. On l'a vu notamment avec, par exemple, la solution Diabeloop, qui intègre justement dans sa plateforme de télésurveillance dans le diabète de l'intelligence artificielle pour accompagner les patients au quotidien.
Et qui permet de sélectionner, de filtrer les vraies, les fausses alertes. Alors, la très polémiquée 5G, est-ce qu'elle a vraiment elle va avoir une incidence sur la e-santé ? Ou sur les programmes médecine ?
Alors, il y a beaucoup de promesses autour de la e-santé avec la 5G, puisque ça permet notamment d'avoir une connectivité quasi permanente, de pouvoir aussi limiter les zones blanches, puisqu'on a encore pas mal de déserts numériques en France. Et puis, ça va permettre aussi d'avoir peu de latence, donc d'avoir une connectivité très, très importante. Mmh. Et on pense que ça va développer tout le marché, notamment des objets connectés. Ouais. Alors, pas seulement dans la santé, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets autour de ce qu'on va appeler les smart cities, avec les objets connectés dans le quotidien. Mais il y a beaucoup de promesses.
On est assez frileux en France, non, concernant la 5G ?
Alors, il y a beaucoup d'interrogations encore sur les impacts sur l'environnement, publique, sur l'impact sur la santé. Donc, il y a beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai qu'on a vu notamment un certain débat geek versus Amish, qu'on a entendu d'ailleurs.
On pourrait imaginer la réserver, non ? Peut-être à certains domaines, comme la santé.
Exactement. Aujourd'hui, de toute façon, les champs d'application de la 5G, tels qu'on les voit, c'est vraiment tout ce qui est autour de ce que je disais, la Smart City et de l'e-santé, c'est les deux champs les plus importants.
Oui. Alors, on va recevoir tout à l'heure le patron du LEM. On parle maintenant de médicaments digitaux.
Exactement. En fait, une des grandes tendances que l'on voit, c'est ce qu'on appelle les thérapies digitales. Donc, ce sont soit des thérapies qui accompagnent un traitement médicamenteux, soit qui le remplacent dans certains cas, notamment tout ce qui va être gestion de la douleur, stress et autres. Vous avez des thérapies digitales, donc souvent sous forme d'applications mobiles ou d'outils d'intelligence artificielle qui viennent accompagner du coup le patient et remplacer ou accompagner un traitement existant.
Oui. Ce qui explose aussi en ce moment, c'est la simulation. Simulation. On voit à l'université de Boston en écrit en lettres d'or never the first time with the patient, jamais la première fois avec le patient.
En fait, c'est la gamification au sens large qui prend une place de plus en plus importante. Donc il y a la réalité virtuelle qui est utilisée maintenant dans certains cas même pour remplacer certaines anesthésies chimiques à l'hôpital. Et puis vous avez tout ce qui est simulation pour former les médecins, que ce soit dans la formation continue ou la formation initiale.
Alors ce qui a permis aussi de booster un petit peu cette évolution vers le digital, c'est peut-être la mutualisation. Cette digitalisation, elle a permis la mutualisation de différents acteurs.
Exactement, ça c'était quelque chose qu'on a vu qui était très important dans cette année 2020, c'est la formation de différentes coalitions avec des acteurs qui venaient un peu de tous horizons, que ce soit des acteurs privés, des industriels, des acteurs publics, des start-up, qui ont permis de créer un certain nombre de projets et de structurer aussi une approche pour être vraiment dans l'accompagnement du parcours patient et l'accompagnement des soignants. Donc ça c'est vraiment une avancée très importante et on espère que ça va pouvoir continuer à se décloisonner puisque c'était une des grandes difficultés aujourd'hui de l'e-santé qui était très silotée finalement entre tous les acteurs.
Un des revers peut-être de la médaille, c'est la cybersécurité, surtout voilà. En santé.
Donc ça, bah pour moi, il y a trois enjeux majeurs pour l'année prochaine. C'est vraiment la cybersécurité qui est très importante, puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une multiplication des attaques, que ce soit autour des hôpitaux ou autour des solutions e-santé. Vous avez la lutte contre les fake news qui est aussi très importante, ça c'est le deuxième enjeu. On a vu énormément de désinformation sur les réseaux sociaux au cours de cette année, et avec les vaccins, ça va encore continuer.
Il faut prévenir les patients.
Exactement, il faut les éduquer sur ces sujets-là.
La vérité n'est pas sur Internet.
Voilà. Et puis le troisième enjeu qui est encore, pour moi, peut-être le plus important, c'est la fracture numérique qui est encore très présente en France. Vous avez environ 18 millions de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès ou ne maîtrisent pas du tout ces outils-là. Donc il ne faut pas aller sur une généralisation du numérique, mais il faut les accompagner et faire en sorte qu'il y ait cette fracture qui diminue.
Alors pour conclure, rassurez-nous Rémi, est-ce que le développement du digital ne va pas nous éloigner les uns des autres ?
Non, bah justement, le digital, c'est aussi un facteur de lien humain. Finalement, ça permet de créer un certain nombre de communautés. On le voit notamment côté patients, où les communautés de patients en ligne ont permis à beaucoup de patients de sortir de leur isolement et justement de pouvoir partager leur expérience, être en lien avec d'autres. Donc, le digital n'a pas forcément vocation à tuer la relation humaine, entre guillemets.
On l'espère. Merci Rémi, merci, bonne année encore. On pourrait rester des heures avec vous, hein, mais on vous invitera à nouveau, ça c'est sûr.
Merci.
On va à présent accueillir Philippe Lamoureux, directeur général du LEM, et Olivier Robichon.
BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé.
Philippe Lamoureux, bonjour.
Bonjour.
Olivier Robichon, bonjour.
Ça va, Fabien ?
Tout le monde vous connaît ?
Oh, j'espère.
Directeur de la revue Prescription Santé. Exactement. Philippe Lamoureux, donc vous êtes directeur général du LEM, les entreprises du médicament. Non. Vous avez fait l'ENA, promotion 89, c'est du bicentenaire. Alors, Philippe Lamoureux, on va commencer par le dur. Expliquez-moi ce paradoxe. C'est une évidence, les gens vivent mieux, plus longtemps, et c'est en grande partie grâce aux médicaments devenus plus efficaces, plus fiables, plus contrôlés, plus innovants, voire presque gratuits. Et pourtant, les Français sont suspicieux envers ceux qui les fabriquent, c'est-à-dire vous. Vous vous sentez, quelle ingratitude, vous vous sentez amer, est-ce que vous vous sentez incompris ?
Non, mais je crois qu'il y a des raisons objectives qui expliquent cette situation. Je pense d'abord que nous sommes un secteur dans lequel il n'y a pas d'effet de marque. Vous êtes attaché à votre marque de voiture, vous êtes attaché à vos produits alimentaires. Le médicament, c'est quelque chose qui apparaît comme indistinct parce que le patient ne choisit pas, c'est le médecin qui prescrit. Je pense par ailleurs que nous sommes un secteur où les fake news se répandent facilement, où les connaissances ne sont pas stables, sont incertaines, le monde évolue, et ça prête le flanc à beaucoup d'interprétations. Je pense aussi qu'il faut que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes interpellés. Je vais prendre un exemple, toutes nos enquêtes le montrent, la question des ruptures d'approvisionnement, par exemple, est un sujet très sensible que nous devons traiter, que nous devons adresser. On voit aussi, et peut-être que la crise de la Covid nous éclaire là-dessus, nous avons amené les produits de sédation, nous avons amené les solutions thérapeutiques, nous sommes en train d'amener les vaccins, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux 100 000 collaborateurs qui travaillent dans cette industrie, qui sont la deuxième ligne. Donc on a beaucoup parlé des soignants à juste titre,
évidemment.
Mais il faut toujours ne pas oublier que derrière, il y a la logistique, il y a les gens qui amènent les traitements, et ils ont fait un travail formidable pendant cette crise.
Olivier Robichon, cette image qui n'est pas celle que mérite l'industrie pharma.
Non, clairement. On sait aussi qu'il y a eu quelques affaires, quelques scandales, que les gens...
Comme dans tous les secteurs.
Les gens retiennent plus en mémoire ces points négatifs. Il y a aussi un phénomène qui n'est plus la réalité actuelle, mais pendant des années, c'est un secteur qui a voulu rester discret, sinon même caché. C'est-à-dire que les labos ne communiquaient jamais. Aujourd'hui, ça a changé depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, l'ancêtre du LEM s'appelait le SNIP, Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique. On voyait des gens derrière des machines.
Ah ouais.
Aujourd'hui, ça a changé. Mais c'est vrai qu'il y a un retard qui a été accumulé, qui est réel. Et puis peut-être qu'il y a une
retard
cible...
Retard sur la communication, c'est
Oui, tout à fait. Et puis il y a une cible qui n'a pas été assez, à mon avis, travaillée. On en a parlé ensemble, Fabien, parce que vous êtes directement concerné. C'est celle des médecins. Les premiers ambassadeurs de l'industrie pharmaceutique, ça devrait être les médecins. Et peut-être que la pharma a un peu de mal à gérer cette histoire de lien d'intérêt.
Je ne vais pas vous contredire.
Voilà, alors, lien d'intérêt ou conflit d'intérêt.
Philippe, donnez-nous quelques exemples de révolution thérapeutique, qui va d'ailleurs s'accélérer. Hein.
Je pense qu'on est à l'aube d'une révolution thérapeutique sans précédent. On le voit avec ces vaccins à ARN messager sur la Covid, mais on sait que demain, avec les thérapies géniques, avec les thérapies cellulaires, avec les immunothérapies, nous allons avoir des révolutions thérapeutiques majeures dans le domaine des maladies infectieuses, dans le domaine du cancer, ou encore dans le domaine des maladies orphelines.
Est-ce que notre système de santé est prêt à les absorber ? Pour être très clair, est-ce que notre système de santé a anticipé le coût que représenteraient ces innovations-là, qui vont être véritablement fantastique. Hein.
Alors c'est une bonne question. Je crois qu'il va falloir que notre système de santé évolue et anticipe mieux l'arrivée de ces produits. Ça veut dire qu'il va falloir les dépister, les détecter plus tôt. C'est ce que nous appelons dans notre jargon, pardon, l'horizon scanning. Et il va falloir imaginer des mécanismes de financement innovants pour faire face aux défis que vont poser ces maladies parce que, et ces traitements, puisque ce sont des traitements dont on verra les effets à 30 ans, à 60 ans, quand la maladie génétique ne se déclarera pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils dont nous disposons sont un petit peu rustiques pour traiter ce genre de produits innovants.
Certains pays ont mis en place des, excusez-moi Fabien, certains pays ont mis en place des systèmes plus fréquemment que chez nous, comme des payés ou satisfaits, insatisfaits ou remboursés. Ça existe aussi sur le médicament en Suisse, en Allemagne parfois. Et les Anglais, nos petits camarades anglais, qui en ce moment sont un peu isolés, mais nos petits camarades anglais, eux, ont mis ce scanning très en avant et anticipent très largement l'arrivée des médicaments sur le marché. C'est un avantage que nous n'avons pas.
Ou des fonds de financement. Ouais. Ou des fonds de financement pluriannuels, ce qui existe dans d'autres pays.
Tout à fait. Philippe Lamoureux, l'année 2020, ça a été l'année du vaccin, l'année qui vous a mis, entre autres, devant de la scène, l'année qui a montré que vous étiez capable de faire des prouesses. Qu'est-ce qui vous a boosté? Est-ce que c'est les nouvelles technologies? Est-ce que ce sont les énormes financements qui ont été alloués? Est-ce que votre capacité d'adaptation? Ou aussi la solidarité, la communion entre différents labos?
Je crois que c'est un peu tout ça. La crise de la Covid nous a mis devant un défi que nous n'avions jamais rencontré. Et effectivement, ça a amené l'ensemble de cette industrie à travailler sur pratiquement un sujet majeur. 300 essais cliniques ont été lancés simultanément et on a vu effectivement une vraie coopération publique-privée se mettre en place avec des financements publics, c'est vrai, qui ont permis d'accélérer la recherche, où tout le monde a travaillé dans le même sens et c'est probablement une première pour ce secteur.
Parce que quand on disait que faire un vaccin ça prenait 12 ans, maintenant ça a pris 6 mois, est-ce que c'est grâce à tout ça?
C'est en partie grâce à tout ça, c'est aussi en partie grâce à l'accélération des processus administratifs, on a autorisé les essais cliniques beaucoup plus vite, on a mené plusieurs étapes en simultané tout en ayant au cœur des préoccupations, préoccupation première, la sécurité des patients.
Et puis il faut dire, sur les vaccins de nouvelle génération, hein, l'ARN messager, on présente ça comme des nouveautés qui font parfois un peu peur d'ailleurs à nos amis anti-vaccins qui nous disent oh, attention, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va. En réalité, c'est une technique sur laquelle les laboratoires travaillent depuis des années et des années, et pas seulement dans la vaccination, aussi dans l'oncologie. Donc c'est pas quelque chose qui est arrivé la semaine dernière ou l'année dernière chez Moderna. Hein,
messager, etc., bien sûr.
Il faut arrêter. Et encore une fois, c'est ce qu'on se disait il y a quelques temps. On n'a pas été trop vite, on a été très vite parce que le contexte l'a permis, et notamment les financements, comme le disait Philippe Lamoureux.
Alors, on parle beaucoup d'indépendance sanitaire en France. Est-ce que c'est une utopie?
Alors, moi, je n'aime pas beaucoup le terme d'indépendance sanitaire. Je préfère le terme d'autonomie stratégique. Mmh. Ça fait des années que nous attirons l'attention de tout le monde sur le fait que la France, petit à petit, et l'Europe sont en train de s'installer dans une situation de dépendance pour leur approvisionnement en matières premières, en principes actifs et en médicaments matures.
Pour des raisons plutôt simples, non? Le coût, peut-être?
Pour des raisons simples, oui. Le coût, mais aussi le fait que les marchés émergents sont en Asie, la croissance économique se fait en Asie, et donc il y a beaucoup de raisons qui militaient pour ça. Et en réalité, on a constaté pendant cette crise de la Covid que cette dépendance existait. Nous en avons besoin. Je crois qu'il faut être très clair, il ne s'agit pas de critiquer la mondialisation. La mondialisation, elle nous a sauvés parce que nous avons pu mobiliser les médicaments là où ils étaient, pour les adresser aux patients là où ils se trouvaient. Par contre, effectivement, il faut rendre à l'Europe une certaine capacité d'autonomie, ce qui veut dire...
Donc un juste milieu.
Juste milieu, non pas réindustrialiser, parce que l'Europe ne s'est pas désindustrialisée, mais relocaliser.
Il y a un problème au-delà de cette autonomie, c'est que en France en tout cas, parce que là l'autonomie elle sera d'abord européenne beaucoup plus que française, faut pas rêver, mais la France elle a une spécificité, et ça là-dessus Philippe Lamoureux a des chiffres qui sont intéressants. Les produits qui sont fabriqués en France ne sont pas les produits nouveaux, ces produits innovants dont on parle. On a un vrai déficit là-dessus, Philippe.
Effectivement, en réalité, la politique industrielle, elle doit marcher sur deux jambes. C'est-à-dire qu'on doit avoir la capacité de fabriquer des produits matures, des produits anciens, pour lesquels nous sommes dépendants vis-à-vis de l'Asie, notamment. Parce qu'on les a un peu laissés tomber, parce que les coûts de production sont importants et les prix sont extrêmement faibles, puisque ce sont des très très vieux produits. Donc économiquement, il y a eu un effet de délocalisation, mais il faut aussi être capable d'attirer la production des nouvelles molécules sur le territoire. On a l'impression que depuis quelques mois, quelques années, il se passe des choses qui vont dans le bon sens. Vous avez vu qu'une partie des vaccins contre la Covid vont être fabriqués pour tout ou partie sur le territoire national. Il y a eu des investissements internationaux assez remarquables qui ont été annoncés ces derniers mois. Il est en train de se passer quelque chose, mais il faut entretenir cette dynamique. C'est très important.
Alors, on a parlé de l'accès à l'innovation. Est-ce qu'on peut encore progresser sur ces accès à l'innovation?
Oui, on peut progresser.
En France, on est toujours un petit peu particulier. Hein,
on peut progresser. Absolument. On est un peu plus lent que les autres.
Un peu plus lent, Philippe. On a des chiffres là-dessus qui sont assez. D'ailleurs, je sais que Philippe, vous plaidez pour une amélioration. Vous voyez les choses positivement. Enfin, on connaît des chiffres qui sont effrayants quand même.
On a, les textes européens prévoient délais de 180 jours entre la mise sur le marché et le prix d'un produit. L'Allemagne est à 130 jours, la France est à 560.
Énorme.
Donc, nous sommes dans le dernier tiers européen, nous ne sommes pas compétitifs de ce point de vue. Et effectivement, nous avons, ce qui modère un peu ce qu'Olivier Robichon disait, des mécanismes d'accès précoce qui permettent quand même de ne pas priver les patients de l'accès à ces traitements, mais nous restons trop longs, nous restons insuffisamment efficients au plan administratif.
Un espoir que ça change.
Nous y travaillons avec les pouvoirs publics, il y a un conseil stratégique des industries de santé qui se réunit avec le gouvernement et qui y travaille, mais c'est un effort de longue haleine.
Il y a un élément qui touche tout le monde, c'est la migraine. Il y a trois antimigraineux qui sont lancés partout en Europe, validés par l'Agence européenne depuis 2018, il n'y en a pas un seul encore en France.
Alors pour finir, le fameux PLFSS, c'est le plan de financement de la sécurité sociale qui, d'habitude, ampute très largement vos moyens. Il est peut-être un peu plus réaliste cette année.
Oui, on voit la marque
d'optimisme et d'espoir quand même.
Les conséquences du Covid, c'est-à-dire que chaque année, il faut savoir que cette loi de financement opère un prélèvement d'à peu près 1 milliard d'euros sur le secteur, qui vient frapper les produits matures. Et qui donc concourt à la désindustrialisation ou à l'affaiblissement de l'outil industriel. Cette année, cette enveloppe de baisse de prix diminue de 300 millions. Les industriels l'ont bien perçue. Il y a la baisse des impôts de production qui va là aussi permettre de réaligner la France sur ses concurrents européens. Il y a aussi le plan de relance où notre secteur a été considéré comme un secteur stratégique. Donc je le disais, les choses vont plutôt dans la bonne direction.
On l'a senti en coulisses quand Emmanuel Macron a été élu. Il y a une espèce de vent d'optimisme. Il a fallu attendre encore 2 ans. Mais honnêtement, cette année, je sais que Philippe doit se montrer mesuré. Cette année, il y a quand même eu un vrai signal d'envoyer. On espère que ça va se poursuivre les années suivantes.
Eh bien, tant mieux. Merci Philippe Lamoureux. Merci Olivier Robichon.
Merci Fabien.
Très bonne année 2021.
Comptez sur nous.
Je compte sur vous, ça c'est sûr.
Une bonne année de vaccination surtout.
Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième émission 2021.